La situation dans laquelle on est en Tchétchénie, c'est donc une dictature qui fonctionne sur le mode de la terreur, absolument généralisée, qui fonctionne également sur une sorte de contrat entre Moscou d'une part et Kadyrov d'autre part, avec à la clé l'allocation de très 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 grosses sommes transférées à Grozny, et donc l'enrichissement de Kadyrov et de ses proches, et une redistribution partielle de ces flux financiers donc vers la reconstruction, puisqu'on a effectivement une reconstruction tout à fait réelle à Grozny et en Tchétchénie. Alors après, la question, c'est que dès lors qu'il y a enrichissement et assise d'un pouvoir totalitaire et qu'il repose sur la peur, il est évident que si on ouvrait la boîte de la lutte contre l'impunité, c'est sûr que là, on aurait des vengeances sans fin et très probablement, Kadyrov soit serait assassiné, soit perdrait le pouvoir, soit qu'il serait tout de suite mis au banc des accusés en tout premier lieu.
Et comment peut-on expliquer le silence de Moscou ?
Les forces russes avaient elles-mêmes très largement utilisé ces méthodes barbares, recours à la torture, nettoyage de très grande échelle, revente des corps morts ou vivants, etc. etc. Donc du coup, au fond, on a un système et Moscou ne fait que transférer ces abominations entre les mains d'un de ses affidés localement. Donc vu de Moscou, c'est un calcul de court terme ou de moyen terme et c'est sûr qu'il n'en va absolument pas d'une pacification de fond puisqu'il suffit vraiment d'une étincelle pour que tout reparte, étant donné le volume des exactions subies et encore une fois, en toute impunité, ce qui fait que les rancœurs, les vengeances, les souffrances n'ont jamais été réparées.
Et justement, alors, comment réagissent les activistes indépendantistes, ceux que Moscou appelle des terroristes ?
Ce qu'on observe par rapport à 2002, le Nord-Ost, ou 2004, Beslan, c'est qu'on n'a pas eu d'actes de terrorisme de grande ampleur dans une ville de Russie. En revanche, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une sorte de guerre des rues qui, en particulier, prend une ampleur très, très problématique, que ce soit au Daghestan ou en Ingouchie en particulier, avec donc des attaques régulières de membres des forces de l'ordre, assassinat le mois dernier au Daghestan du ministre de l'Intérieur. Et donc finalement, on voit bien que le mécontentement politique, social et en partie économique et que l'absence de débat démocratique et d'espace d'expression sur le plan politique conduit tout droit à ce genre de contestation, à savoir les armes à la main.
L'islamisation continue elle-même de représenter une réelle menace comme force d'opposition ?
L'utilisation de l'islam comme vecteur de mobilisation, je dirais. L'islamisation en tant que telle, je ne crois pas qu'on puisse la définir comme une menace. Ce qui est une menace, c'est l'absence de débat démocratique et l'absence d'espace d'expression démocratique, absence dans laquelle la militarisation de la contestation s'effectue précisément là en convoquant le discours islamique, donc de libération anti-impériale et à caractère religieux.
Alors l'opération antiterroriste russe est finie, mais est-ce que les Russes sont vraiment partis ?
La présence russe, c'est à la fois des flux financiers importants qui viennent de Moscou à Grozny, c'est à la fois une carte blanche donnée par Moscou à Kadyrov, c'est à la fois, malgré tout, la présence encore de quelques milliers de militaires russes sur le territoire tchétchène, et puis c'est bien sûr dans la région un contrôle par l'armée russe qui reste très présente en termes de volume et de stationnement, donc tout autour de la Tchétchénie.